Voilà, on va se rendre au théâtre de Lucernaire pour Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Bonjour Anne-Sophie Liban, bonjour Mathias Fortuné de Roulaire.
Bonjour.
Compliqué comme nom. Vous pouvez pas couper là, mais bon, j'ai rien dit. Sort, comme on dit sur les réseaux sociaux, l'établi. Donc, d'après le roman de Robert Linard, Olivier Mellor.
Bonjour.
Vous êtes au théâtre de l'Épée de Bois. La compagnie, ça s'appelle Le Berger, c'est ça? Ou du coup du Berger?
Ouais, voilà. Ouais.
Ouais. Non, mais c'est important.
Compagnie du Berger.
Ou je peux dire n'importe quoi,
c'est,
non plus.
C'est bien.
On peut dire n'importe quoi. Voilà. Et donc, et vous êtes venu avec l'un des comédiens, Marat Benhadj.
Bonjour.
Bonjour, ravi de vous avoir. 10 comédiens sur scène. Ça devient des productions très, très difficiles à monter, j'allais dire.
Oui.
En général, on essaie de prendre un, deux.
Oui, voilà, pour voilà. Mettre l'ambiance, bon. Disons, oui.
Enfin, là, on pouvait difficilement faire autrement. Difficilement faire autrement. Je voudrais qu'on dise quelques mots quand même de, pas quand même, de Robert Linard, parce que c'est quand même quelqu'un de tout à fait étonnant. Et que vous nous expliquerez après ce que c'est qu'un établi. Parce qu'un établi, on connaît l'un des sens, pas forcément l'autre. Là, on joue vraiment sur les deux sens, et c'est très intéressant. C'était quelqu'un qui était sociologue, en fait, et qui a fait partie de ces, on va dire, je disais en entrée de truc tout à l'heure, intellectuels, entre guillemets, mais qui se sont investis dans le monde ouvrier dans les années 70, c'est-à-dire qui ont été vraiment qui chez Citroën, qui chez Renault ou dans d'autres endroits. Et c'est exactement le parcours de Robert Linard, qui a été, je crois, un an dans l'usine Citroën,
oui.
Qui a écrit ce livre. Ça se passe 10 ans après 68. Ou pas tout à fait, enfin...
Lui, il rentre chez Citroën en septembre 68.
Et il a été complètement traumatisé, on peut dire, par cette aventure.
Oui, ça l'a bien secoué, oui. À tout point de vue, c'est-à-dire que... Bon, maintenant, Robert, c'est un vieux monsieur, hein, il a 75 ans.
Il est fantastique, hein.
Il est pas du tout revenu de tout ça, il est toujours aussi engagé, toujours
il est perché,
colère.
On dirait, parce que moi je l'ai vu l'autre jour à la première, et c'est extrêmement émouvant, évidemment, quand on a vu le spectacle, de le voir là présent, de savoir qu'il accepte régulièrement de faire des bords de plateau, et il a quelque chose dans le regard, etc., qui est tout à fait particulier, il parle pratiquement pas d'ailleurs, toujours,
non, enfin,
il
fait c'est quelqu'un
mais
qui a
il y a quelque
avare
chose qui
de
se
mots,
passe
ouais.
Dans son regard, qui est très émouvant.
Je pense que c'est quelqu'un qui est un observateur, hein. C'est ça. Avant tout la sociologie. Il rend compte de ce qu'il voit, et en plus il le voit de toute façon, de façon très littéraire aussi. Quoi. C'est pas seulement un bouquin sociologique, c'est aussi de la littérature.
Bien sûr.
Et c'est aussi un poète. Et de fait, nous quand on l'a rencontré, il a accepté très vite de nous aider même à l'adaptation. Hein. Il y a sa voix aussi dans le spectacle. Oui, il nous accompagne beaucoup. Et je crois que la parole qu'il a donnée de tout ça il y a 30 ou 40 ans, elle est encore assez vivace. Hein. C'est des problématiques qui existent encore.
Il y avait le seul livre, il ne s'agit pas de comparer, mais qui donne aussi un aspect très étonnant, qui est le livre de Philippe Etty sur la classe ouvrière. Lisez-le. Pour moi, c'est la référence absolue de ce qui a été écrit sur la classe ouvrière. En plus, c'est vrai qu'il a eu un certain succès, littéraire, etc. Et donc voilà. Et pour moi, vous verrez ça. Enfin voilà, c'est tout à fait. Lisez le acheter l'établi de Robert Linard. Qu'on trouve, je crois, encore relativement facilement.
Oh, oui, complètement.
Donc, il n'y a pas de souci. Il a eu une autre expérience aussi, mais alors dans des pays beaucoup plus loin.
Il est parti en Amérique latine à un moment pour étudier la fabrication du sucre, l'agriculture. Là aussi, dans les années 70, à un moment où se rendre en Amérique latine, c'était pas forcément aller au carnaval de Rio, quoi. Hein.
On est d'accord.
Voilà.
Est-ce que ça l'est toujours d'ailleurs? Pas forcément plus, ça dépend des endroits.
Ouais, je sais pas, mais en tout cas, de ce qu'on connaît de Robert, c'est un engagement total. Voilà. C'est à la fois un engagement total dans l'usine, mais aussi dans sa vie d'écrivain, dans sa vie d'enseignant aussi, parce qu'après il a enseigné beaucoup, et puis dans sa vie tout court. Enfin, c'est quelqu'un qui fait vraiment rien à moitié, quoi.
Alors on va y venir là tout au long de notre émission, Olivier, parce que c'est un spectacle absolument étonnant qui je suppose et j'en suis sûr a demandé déjà en amont au niveau de l'adaptation, de la préparation, etc. un certain nombre de mois.
Oui, après nous on bosse vite, hein.
Oui, je sais, mais
longtemps,
enfin.
Et puis on fait des choses efficaces. fait du théâtre de recherche pendant un quart d'heure et après on fait du théâtre de solution. Quoi,
ouais, enfin, ça a été plus long peut-être que le brèche précédent quand même. Hein.
Ah, pas forcément.
Non, hein, c'est vrai.
Non, c'est.
Je dis pas que c'était facile,
c'est que
mais
maintenant
bon.
On fait un peu tout nous-mêmes, c'est-à-dire on fait même la scénographie nous-mêmes. Enfin voilà, on bosse quasiment sans technicien, c'est-à-dire que toute l'équipe technique est au plateau. Et ça nous permet aussi d'avoir une vraie prise sur le spectacle et de bien aimer le faire, quoi. De s'amuser aussi là-dedans. Même si c'est vrai que l'établi, le pitch, il n'est pas fabuleux. Mais c'est comme Dialogue d'exilé de Brecht, le pitch n'est pas non plus très
vendeur. Oui, mais enfin, il y avait la bière, ça a aidé pas mal. Hein.
Oui, bien sûr.
Je plaisante. Mais c'est parce que c'est un des rares Brecht que j'ai vraiment adoré pour des tas de raisons. On reviendra pas là-dessus, mais je sais qu'on en avait parlé, on avait passé un moment formidable. Et ça continue de tourner d'ailleurs, le
Brecht. Oui, on
Brecht,
est toujours en tournée avec le Brecht. Voilà, tout est sur le site de la compagnie. CompagnieDuBerger.fr.
Voilà, CompagnieDuBerger.fr. Ça, c'est fait. On va parler de l'établi. Alors, ce musée, c'est très amusant, Mathias et Anne-Sophie, parce que, en fait, c'est une pièce qui a été donnée en levée de rideau, je veux dire, en première partie à la Comédie-Française, il y a des années de ça, parce qu'elle doit être assez courte, en fait. En réalité, elle doit faire pas plus de trois quarts d'heure. Vous faites un petit peu plus, mais là, tout s'explique par les trouvailles, par la mise en scène et par ce que vous faites. Alors, on peut rappeler quand même l'histoire en deux mots avant de rentrer dans le contexte actuel. C'est un truc très classique quand même de l'époque, entre quelqu'un qui est fou amoureux, qui est un comte, c'est important de le dire, ouais, pour la suite, qui est amoureux d'une marquise. Bon, ça veut dire qu'elle est quand même la classe un petit peu au-dessus, hein, même s'il joue dans la même cour. Et on est quand même obligé de rentrer dans la modernité, parce que finalement, elle a quand même une certaine forme, j'allais dire, de liberté en tant que femme. En tout cas, elle le revendique, non pas comme on le fait maintenant, mais on sent bien qu'elle n'a pas envie qu'on l'embête trop. Elle trouve que les discours amoureux, elle a probablement raison, d'ailleurs, sont toujours les mêmes, tournent toujours en rond, ça ne veut pas dire grand-chose. Finalement, ça l'ennuie, donc elle n'a pas envie de ça. Mais au-delà de ça, et on y viendra, ils ont tous les deux des raisons, j'allais dire, de faire une fin, entre guillemets, à leur vie de célibataire, si c'est possible, entre l'horloge biologique pour l'une, qui marche aussi, d'ailleurs, j'ai appris, pour les hommes, comme quoi, là aussi, peut-être qu'on est plus égaux qu'on ne le croit. Et surtout, ce discours, ce qui est extraordinaire, c'est que on est dans cette époque, on est chez Musset, mais qu'on a l'impression d'être aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez réussi un décalage tout en gardant le texte. Il y a rien, vous n'avez rien ajouté ni retranché au texte de Musset, mais c'est dans votre façon d'aborder, c'est ça que je voudrais, dont on parle, on est vraiment aujourd'hui, ce qui prouve que les plus grands textes, finalement, effectivement, on peut se balader avec. Alors, c'est quoi cette idée folle de l'avoir mis là, dans un milieu bobo, plus que bobo d'ailleurs?
En fait, c'est pas du tout une idée folle. On s'est pas dit qu'on allait prendre Musset, qu'on allait essayer de trouver quelque chose de moderne. Mais c'est en travaillant dessus, on a découvert. Enfin, ces deux personnages sont comme Musset l'est, c'est-à-dire qu'il est, il se trouve inadapté à son temps. Il en souffre. Il est mal à l'aise et en même temps il vit cette vie citadine où il essaie de profiter de la vie, où il essaye de jouir de la vie. En même temps, il est dépressif et en même temps il picole. Et donc il y a toute cette.
On a ça dans l'organisation complètement. Enfin, je veux dire, après dans les grandes pièces qu'il développe, on a ces deux aspects, ces deux côtés. Et là, c'est salé, mais en avance, quoi. Enfin, comme une ouverture de ce qui va aborder après d'une autre façon. Il y a déjà tout, quoi. Il y a déjà tous ces thèmes quand même dedans.
Oui, et en plus, ce qui est amusant, c'est que c'est une pièce de Musset qu'il a écrit entre guillemets vieux. Parce que Musset a l'essentiel de sa production, donc Lorenzaccio, Marianne, tout ça, c'est dans la vingtaine.
C'est quand même extraordinaire.
Et il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Il est vieux, c'est-à-dire il a 35 ans, il va mourir 10 ans après.
Ouais, ça fait drôle de dire ça aujourd'hui. Bon, il a 35 ans, il est vieux, allez hop là.
Non, mais pour lui, parce qu'il y a... C'est quelqu'un qui est, il est prématuré dans tout, Musset. Je crois qu'il a fait ses études, il a eu son bac à 15 ans ou un truc comme ça.
On va arrêter. Bon, c'est un petit génie, mais ça m'agace un peu d'ailleurs. Bon, bref. Non, mais c'est
et
clair.
Donc, il est déjà désabusé quand il écrit qu'une porte soit ouverte ou fermée.
Oui, c'est ça.
Il n'a plus la même fougue qu'un Lorenzaccio et donc il y a ces deux personnages qui ont déjà vécu, alors qu'ils n'ont que 30 ans. Mais la marquise, elle dit qu'elle est déjà fatiguée de vivre. Elle est veuve, ça c'est très important. Du coup, ça lui donne un statut.
On ne sait pas de qui, de quoi. On en parle. C'est simplement évoqué. Lui, ça l'agace un peu. Bon, enfin, bon, voilà. Mais on ne sait pas trop exactement. Bon. Mais enfin, 20 à 30 ans, à l'époque, je veux dire, si on était vu à 35, c'est normal. Enfin. Enfin, non, mais je veux dire, bah si, elle s'est mariée entre 18 et 20 ans. Enfin, c'était courant.
Il y a plein de gens qui sont morts après 35 ans, hein, quand même.
À l'époque ?
Oui.
Oui, quelques-uns, mais pas tant que ça. Non, mais.
Mais le fait qu'elle soit veuve, ça lui confère surtout un statut spécial, c'est qu'elle n'est plus ni une jeune fille, ni une mère, ni une vieille. C'est-à-dire qu'elle est la veuve qui est encore jeune, c'est la femme libre.
Ce qui lui permet éventuellement de choisir, là, pour le coup. C'est-à-dire qu'elle a passé, effectivement,
donc c'est vraiment
l'état
un
qui, à l'époque, était obligatoire, qui est toujours pour d'autres sociétés, malheureusement, maintenant. Mais elle s'est donc, par ce statut, ayant déjà été mariée, affranchie déjà d'une... Donc, effectivement, ça... Mais en même temps, alors j'allais dire... On a quand même l'impression qu'ils s'ennuient fortement, tous les deux, chacun dans leur truc. C'est-à-dire que... Aussi bien lui qui semble être l'inverse, c'est-à-dire plus coureur, plus belâtre, plus... bon, il a ce côté-là, effectivement. En même temps, il est hyper sincère, c'est-à-dire qu'il est vraiment fou, amoureux. Et du coup, j'allais dire, je pense que ça le rend encore plus maladroit face à quelqu'un qui ne l'écoute pas, qui l'envoie plus ou moins machin, c'est-à-dire qui en joue, alors que peut-être qu'il y a des signaux qu'elle envoie... avant de finalement de, on va dire, parce que ça se termine bien, hein, on a compris, avant de lui tomber dans les bras, mais que y a peut-être des choses qui saisit pas. Et puis il y a ces histoires de portes qui est extrêmement drôle, parce qu'il arrête pas d'entrer et de sortir. La première fois, c'est parce qu'il a amené un bouquet, le bouquet, je vous raconte pas ce qui lui arrive, donc il revient avec autre chose, je vous dis pas non plus parce que c'est super drôle. Et qu'après, il y a sous prétexte de courant d'air ou de ci ou de ça, et on a tout le temps, mais fermez donc cette porte, etc. Autrement dit, la porte est toujours ouverte, pratiquement. Enfin, très souvent ouverte ou entre-ouverte, ce qui est un peu une symbolique, hein, comme, par rapport à l'histoire. Non, Anne-Sophie ?
Oui, et puis cette porte...
Parlez bien, collez bien au micro.
Cette porte, c'est aussi un troisième personnage, parce qu'elle a sa propre personnalité. Parfois, elle fait un bruit de porte de prison.
On entend, le bruit est formidable, on l'entend bien. Hein, oui. Moi, j'aime bien, oui.
Une vieille porte aussi qui grince, ce qui n'est pas très agréable, d'ailleurs, ni pour la marquise, que ça met très mal à l'aise. Et donc voilà, c'est vraiment un troisième personnage.
Oui, elle joue aussi un peu, comme j'allais dire, sur les états d'âme ou sur les situations en fonction, malgré elle, ou enfin, ça on s'en rend compte qu'après. Mais
soit elle accompagne, soit elle va contre.
Oui, c'est ça.
Voilà. La porte de prison, par exemple, arrive un peu alors, de manière incongrue.
Il y a quelque chose d'étonnant aussi, c'est que finalement, et ce à quoi on ne s'attend pas, mais qui est formidable, là, je pense, là, que vous avez trouvé, qui est remarquable, c'est que c'est très bavard. C'est pas que c'est très bavard, mais c'est qu'il y a beaucoup de. C'est très bavard dans le bon sens du terme. Ils sont tout le temps en train de parler ou d'essayer de parler ou d'échanger, même s'ils ne se comprennent pas. Et qu'en fait, le sentiment amoureux va ne se dévoiler finalement qu'à travers le langage du décor. Ça, c'est une idée formidable. Comment vous en êtes arrivé à ça, finalement ? Est-ce que c'est parce que tout d'un coup, il y a une espèce de truc qui fait que on arrête tout ou le ton monte et il faut passer à autre chose. C'est-à-dire que faut que l'un des deux se décide à attraper l'autre, ce qui se passe d'ailleurs.
Justement, vu qu'il y a ce côté bavard qui peut un peu énerver chez Musset, ou malheureusement, hein, mais parce que nous, avec tous les classiques, d'ailleurs, souvent... On regrette de voir des interprétations qui sont ennuyeuses.
Bon, c'est vrai que le bourgeois gentilhomme, qui était la première que je vais monter, et surtout le mariage forcé au ciné 13, c'était bien déjanté aussi. Hein.
Voilà, et très, très physique, toujours très physique.
Oui, et toujours très physique. Oui, votre marque de fabrique.
Et c'était important dans ce texte qui peut... En tout cas, il parle énormément au départ. En fait, il tourne autour du pot sans arrêt parce qu'ils ont... Une chose relativement simple à se dire, c'est qu'ils s'aiment, mais ils passent par... voilà, ils n'y arrivent pas. Et puis finalement, ça explose seulement vers la fin. Mais enfin, on trouvait qu'il était vraiment essentiel d'aller mettre un peu d'organique là-dedans, quoi.
Qu'on voit les corps qui s'attirent et qui se repoussent. Il y a le côté combat de boxe aussi.
Il y a ça carrément, ouais. Je veux dire. Hein, je ne vais pas tout dévoiler, mais enfin, c'est vrai que ça va assez loin. Enfin, ça va assez loin. Ce que je veux dire, c'est que vraiment, ils y vont. Ouais. Mais que finalement, c'est quand même vous qui... Une fois de plus, c'est toujours c'est la femme qui prend la décision. C'est quand même vous qui allez... Parce qu'il n'oserait pas autrement. Il n'oserait pas vous embrasser si vous n'alliez pas tout près de lui.
C'est-à-dire que quand
il sait plus quoi, il sait plus quoi faire, quoi. C'est-à-dire que voilà. Quand elle est prête, effectivement, c'est elle qui tout d'un coup a l'air de dire, bah, qu'est-ce que t'attends pour m'embrasser, quoi. Ça, c'est extraordinaire. Lui, ça fait une heure qu'il est en train de tourner autour du truc, d'essayer de l'aborder. Elle est inabordable, genre Célimène dans Le Misanthrope. Elle se la joue comme ça. C'est différent, mais quand même, je trouve qu'il y a des ressemblances. Et puis, il faut quand même qu'il y ait cette espèce d'autorisation, j'allais dire, physique pour le coup. Et c'est extrêmement jouissif pour nous aussi. Et c'est vrai que d'un seul coup, j'allais dire, vous libérez toute la salle en même temps. Hein, parce qu'on est là quand même avec lui la plupart du temps en se disant, bon, écoute, bah, arrête de tourner en rond. Bah oui, mais comment tu pourrais faire autrement? Mais tout ça va très vite, etc. Puis on la regardait, on se dit, ouais, mais non, en fait, c'est intéressant parce qu'elle cherche vraiment à s'assurer d'eux. Elle a des raisons qui, et puis voilà, c'est pas simplement une coquette. Est-ce que c'est le bon, quoi? Enfin, est-ce que vraiment... Mais je pense que vous l'aimez avant que ça se déclare comme ça, quand même. Enfin, j'ai le sentiment...
Ah oui, ça fait un an qu'il vient tout...
Oui, quand même, voilà.
Voir tous les jours, la voir.
C'est pas toujours le bonjour, hein. C'est pas toujours le bonjour,
par contre. C'est pas toujours le bonjour, et là, c'est la première fois qu'il se retrouve seul avec elle.
Ouais, voilà.
Il s'y attend pas. C'est la catastrophe.
Oui, en même temps, non, ça se termine bien. Hein. L'occasion fait le larron quand même, mais bon. Oui, mais alors, de pluie, c'était à mourir de rire parce que certains jours, on entend vraiment la pluie.
C'est vrai.
Et c'est pas gênant, donc tant mieux. Bon, c'est très jouissif à jouer tous les deux, pour vous tous les deux, j'imagine.
Ah oui, pour nous, c'est vrai.
C'est un grand bonheur.
Oui.
En plus, vous êtes, je le rappelle, dans cette salle du paradis où on est à la fois en proximité et où effectivement, voilà, tout peut se passer et où on est vraiment avec vous aussi. Donc le public est complètement embarqué, quoi, par cette espèce de folie.
Oui.
Mais c'est vrai.
Non, mais c'est vrai que juste pour revenir sur le texte, c'est vrai que c'est un texte qui est assez étonnant parce qu'il y a un vrai discours féministe qui résonne encore aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a voulu aussi l'ancrer
Moi, je me suis posé la question, parce que tout le monde en parle là aujourd'hui, parce que c'est très à la... On est en plein dedans. Il faut expliquer quand même... Enfin, féministe, dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire enfin, dans ce que vraiment une femme revendiquant sa liberté, peut... Ça ne va pas au-delà. On n'est pas dans des trucs de dingue, politico, machin, etc. Ça reste... comment dire? C'est difficile à dire, je vais me faire taxer de je sais pas quoi encore, notamment de... Bon. Non, mais ça reste, comment dire, c'est le mot de féministe, de féminisme qui mange. Féministe, oui.
En tout cas, Musset est carrément féministe. Le mot féministe, même.
Il l'emploie.
Non.
Voilà.
Non, mais il... Mais
non,
mais
on est d'accord, oui, bien sûr.
Même si c'est... Si c'est ce qui est assez dingue, c'est que en fait... C'est lui qui écrit, donc c'est lui qui parle à travers les deux personnages. Mais je me demande si, même dans le personnage de la marquise, c'est pas encore plus lui que le comte. Parce que lui, il est passé par
Jean Sand. Oui, c'est possible aussi. Oui, c'est vrai.
Je veux dire, la liberté pour lui, c'est quelque chose de tellement important qu'il arrive dans ces personnages. Il ne fait pas de distinction de... Enfin, je trouve que c'est très particulier parce que justement, il considère ces personnages, on dirait qu'ils sont d'une certaine façon, ils sont très sexués, et en même temps, ils ne le sont pas. C'est plus des individus. Donc, je sais pas.
Non, mais ce que je veux dire, c'est vrai qu'il y a deux passages, en tout cas, il y a deux moments au milieu de toute cette joue, de cette évolution, etc., qui sont des espèces de monologues, entre guillemets, de lui, du comte et de la marquise. Qui sont extrêmement importants, qui sont un petit peu, tout en étant dedans, un tout petit peu à part. Enfin, où il faut prendre tout d'un coup un tout petit peu plus de temps, justement pour qu'on entende cette parole ou ces paroles. Donc, je voulais pas faire en fait tout d'un coup. Ce que je voulais dire, c'est que c'était plus un discours féministe ou de femme revendiquant des choses en tant que femme et par rapport à des, là dans le cas précis à des sentiments amoureux, plus que d'englober ça dans un féminisme actuel, politico, machin, truc, etc. Qui a ses raisons. C'est juste ça que je voulais dire. Alors, c'est toujours compliqué d'essayer de mettre des nuances par rapport à un terme qui a été ou qui est souvent galvaudé ou mal utilisé. C'est juste ce que je voulais rétablir. Bien sûr que c'est hyper féministe et bien sûr que je suis d'accord avec vous. Je pense que son parti pris et son écriture, elle est du côté du féminin. C'est
un des rares. Enfin, ouais, c'est ouais. Un des grands rôles féminins, je trouve. Enfin, il est vraiment vraiment très authentique et très beau comme rôle féminin.
Ah, oh, c'est superbe, hein. C'est super parce que justement là ça va même si ça va à 100 à l'heure c'est ce que je disais par rapport à certains moments, il y a des silences, il y a des temps, il y a des choses où ce que vous faites ou là dans les regards ou dans les postures sont hyper importants et c'est ce qui va amener finalement à cette explosion finale. Donc c'est très important d'avoir à la fois un rythme très soutenu mais de ne pas oublier que à l'intérieur de ça, il y a du temps à prendre. Et j'allais dire, peut-être, bah, vous démarrez, mais peut-être vous en prendrez encore un petit peu plus sur certaines choses pour qu'il y ait bien la, qu'on ait bien la facture et tout d'un coup, on sera embarqué comme la lave d'un volcan. Quoi. Mais c'est absolument superbe. Alors, Olivier, c'est établi qui nous retrace véritablement, on est dans l'usine, dans un atelier de l'usine Citroën. On peut dire ça, enfin bon.
Oh, on est dans un théâtre, hein, donc...
Oui, non, mais enfin...
C'est une représentation de la fantasmagorie que les gens ont de l'usine, en fait. Y compris moi, hein, qui ai assez peu foutu les pieds là-dedans. Moi, mes parents étaient ouvriers, mais c'est tout ce que j'en connais. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de jouer un peu sur l'inconfort aussi du spectateur. Il y a beaucoup de musique, beaucoup de bruit.
Et une musique très particulière. Hein, on va pas dire que c'est la musique d'usine, mais c'est une musique
électro,
qui a des sons.
Dire, voilà.
Oui, c'est ça. Ça accompagne les chutes diverses, les bruits divers, etc. Quand je dis on est dans une usine, évidemment, c'est qu'effectivement, ça pourrait être une représentation en tous les cas, c'est une image, qu'elle soit cinématographique ou au théâtre, d'un atelier. Et que la reconstitution que vous avez fait, même... quelle qu'elle soit, je veux dire, avec une esthétique, parce qu'il faut quand même une esthétique au théâtre, elle est plus de l'ordre d'une esthétique industrielle, je veux dire, que d'une esthétique d'autre chose.
Ah, pour ça, on est bien aidé aussi par l'épée de bois, parce que la salle où on joue, c'est une ancienne usine en tant que telle.
C'est un endroit magnifique.
Donc forcément, c'est assez simple d'habiller tout ça. Bon, puis on est assez nombreux. On transporte des trucs sans arrêt. Personne ne sort de scène, en fait. C'est vraiment une heure et demie à fond, en fait. Voilà. Avec beaucoup de chaleur et de fumée, de choses qui... Enfin, on en voit vraiment la sauce, quoi, on va dire.
C'est clair. C'est clair. On a dit que c'est important parce qu'on dit ça, l'établi, pourquoi ça s'appelle l'établi ? Alors, l'établi, bien sûr, c'est sur la table de bricolage.
Ouais.
Mais quand le livre a été écrit... l'établi, c'est en fait un personnage. Il représente qui ?
C'est une pratique qui a été inventée à la fois par des sociologues, dont Robert Linhart, hein, et quelques autres, y compris des femmes comme Leslie Kaplan, qui se sont tout simplement embauchées en usine, à la fois pour aider les ouvriers à formuler leurs demandes, leur indignation face au patronat, etc., mais aussi pour sociologiquement et même personnellement essayer de se confronter au plus près de ce qu'ils racontent, quoi.
Donc c'est ce qu'on pourrait dire, ce sont des gens qui s'établissaient une usine et tout là, et donc on a nominisé n'importe quoi, ça n'existe pas. En tous les cas, c'est devenu le nom de l'établi, c'était ces gens qui, etc.
Alors, il y a ce double sens, parce que...
Et il y a le double sens, bien sûr.
Dans le roman, à la fin, il y a un vieil ouvrier qui travaille sur un vieil établi, et on lui change, on lui met quelque chose d'assez moderne et rationalisé, et ça le détruit complètement.
Alors, sur scène, en fait, il y a un narrateur et 9 comédiens, hein ?
Oui, c'est ça.
Alors, le rôle du narrateur, qu'est-ce que c'est le rôle du narrateur, en fait ? C'est un peu le fil conducteur, c'est celui qui va dérouler, nous dire un peu ce qui se commence.
C'est Robert Linhart, hein, tout simplement. Oui, bien sûr. C'est Aurélien Bacalbertini qui joue ça. Et normalement, dans le roman, il y a quasiment que lui qui parle. Donc après, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a distribué d'autres rôles. Maran, par exemple, on a deux. Il joue à la fois Mouloud, un manœuvre M2 à l'atelier de soudure. Et puis aussi Ali, qui est plus un manutentionnaire vers la fin, quoi. Et en fait, voilà, ça nous permet aussi d'avoir plusieurs rôles, parce qu'en fait, il y en a à peu près 35-40 hein, dans l'établi. Donc si on... C'est plein... un peu comme quand on a monté Cyrano, où on était 35.
Ouais, c'est ça.
On était très nombreux, mais dans Cyrano, il y a 80.
En même temps, oui, c'est ça ce que j'allais dire.
Donc, il y a un moment, il faut y aller, quand même.
Il y a les petits chefs, hein, dans cette...
Il y a les petits chefs, il y a les grands chefs aussi, il y a les contremaîtres.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a ceux qu'on ne voit jamais parler bien devant le micro. Ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement... j'allais dire, on a l'impression qu'à l'époque, enfin, si on n'avait pas de boulot, n'importe qui pouvait postuler, rentrer dans une usine, mais et qu'après, bon, où ça collait un poste, où ça collait pas, on vous changeait, mais ils n'étaient pas virés, les mecs.
Oui, ça présente aussi l'époque de 68, hein, que les gens, ils ont été embauchés sans diplôme, sans rien. Ils sont plus on ne peut pas dire des machines, mais pour remplacer des machines qu'ils n'ont peut-être pas inventées à cette époque-là. Voilà.
Non, c'est surtout que c'est une époque où on trouvait beaucoup plus de travail. Hein. C'est une période de plein emploi.
Oui, bien sûr.
Et c'est vrai que, de fait, il y avait de tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi. C'est-à-dire
mais donc, on pouvait apprendre une qualification, on pouvait rentrer en ne sachant pratiquement pas grand-chose. Et avoir des qualifications par la suite, éventuellement. Ne pas rester simplement le mec qui pousse les chariots.
Ah bah si on était blanc, bien gaulois, c'est ce qui pouvait se passer. Après, pour les Arabes, les Noirs et tout, c'était plus compliqué.
C'est effectivement ce qui est aussi très bien dit. Oui. C'est extrêmement bien montré et c'est fait dès le départ. Hein.
Ah oui, c'est. De toute façon, c'est un livre très. C'est un livre de vulgarisation, en fait. Hein. C'est un livre de sociologie, mais très simple pour apprendre aujourd'hui ce qu'était l'usine il y a 50 ans, sachant que ça n'existe plus, les usines comme ça. Hein. Là, on avait des ateliers où il y avait plus de 1000 personnes sur des chaînes automobiles, avec toutes les nationalités, tous les âges, des femmes aussi. Et c'était un vivre ensemble obligatoire dans une insécurité ambiante et puis évidemment pas de clim, hein. Voilà, c'était hyper dur, quoi.
C'était hyper dur.
Des journées de 10-12 heures.
Le spectacle présente toujours bien la vie d'ouvrier d'aujourd'hui. Même si ce n'est pas la même époque, on trouve ça bien clair dans le spectacle. Les ouvriers qui aujourd'hui sont toujours en galère, si on peut dire ça.
Oui, ça a peut-être un petit peu évolué au niveau des conditions, du travail, de sécurité, etc.
Mais pas la vie sociale.
Il y en a moins, mais la vie sociale, effectivement, est toujours la même.
Compliqué pour les ouvriers.
Ce qui existe encore beaucoup, c'est la pression des petits chefs.
C'est clair, ça c'est clair.
L'oppression même sur le rendement, parce qu'à l'époque, en plus, ils étaient payés au boni, c'est-à-dire
qu'il
fallait faire un certain nombre de pièces par jour.
Ouais, c'est ça.
Et éventuellement, s'il y en avait un peu plus, bah, tant pis, c'était pas en plus. Tandis qu'aujourd'hui, on a des primes et tout ça. Vous n'avez même pas tout à fait ça, eux. Hein, donc, non, c'était une période très compliquée.
Une période très difficile. Et en même temps, il y a eu des. Je veux dire, à partir du moment où il y a eu les machines, etc., où donc petit à petit, le monde ouvrier, humain, a été remplacé. Par les marchés, etc. Ce sont des régions entières, effectivement, qui ont plongé. Je parle aussi, moi, pour des gens que je connais bien, qui sont les Cévennes, je veux dire. Donc, parlons pas des filatures, parlons pas du charbon, etc. Là, je parle pas des conditions, parce que, évidemment, manifestement, je veux dire, descendre à la mine, je crois que ça devait être encore, peut-être, pire, si on veut mettre des échelles.
Ouais, ça devait pas être super non plus, c'est sûr.
Hein, je pense que ça devait être monstrueux, surtout que à l'époque il y avait des enfants. Hein.
Oui.
Voilà, dans les usines aussi. Hein, c'est pas pour.
Voilà, en 68, non, il y a pas d'enfants sur les chaînes. Hein,
non, là ça a commencé, ça a bougé depuis un moment.
Ceci étant dit, maintenant, enfin, ce système de production, c'est déplacé vers d'autres pays, quoi.
Vers d'autres pays, d'autres régions du monde. Effectivement,
qui ont bien de la chance.
Là, les grands chefs et les grands capitalistes qui nous vendent des trucs à à des prix astronomiques. Les fonds fabriqués, on le sait, malheureusement, il ne faut pas arrêter de le dire. Ça, c'est juste. Ça s'est déplacé, mais par des populations qui ne peuvent même pas en vivre et où les enfants sont largement mis à contribution. On va faire un petit tour, Dominique, justement.
Si tu veux.
Ça me semble assez simple de te passer la parole là pour quelques minutes et puis on bouclera l'émission après avec Lucie, avec l'établi, bien sûr.
Alors effectivement, l'établi d'abord, quand on parle livre, c'est un livre majeur. Bon, d'abord de l'après 68 et de l'expérience en usine. Bon, moi je continue à le lire et à le relire et puis à le diffuser.
Bravo.
D'abord, c'est un livre au niveau de l'écriture qui est magistral. Là, Linhart, bon, c'est un grand écrivain et donc... à lire et à relire, donc l'établi, Linhart, aux éditions de Minuit, une très bonne maison d'édition.
Merci,
oui, alors finalement on est un peu dans le sujet, alors rapidement je vais pas développer, puis il y a d'autres livres mais on en parlera la dernière fois. D'abord dans l'excellente maison d'édition de Piquet Poche, qui... crée une ouverture vers les littératures, en particulier de l'Orient et de l'Extrême-Orient, un roman chinois remarquable qui s'appelle « Bon baiser de Lénine », hein, un petit coup d'œil à Linhart également, d'un écrivain qui s'appelle Yan Liangke, qui a eu des problèmes, bien sûr, comme tout un tas d'écrivains dans les décennies précédentes, qui sont des anticonformistes, simplement parce qu'ils veulent. Ils ont voulu montrer la Chine telle qu'elle était, et pas ce qu'on a pu en voir à d'autres époques, en s'imaginant qu'est-ce qu'il pouvait y avoir d'extraordinaire derrière des événements comme la Révolution culturelle ou autre. Je parle de la Révolution culturelle, parce que dans le roman, il y a un fond historique, où on revient aux catastrophes qui ont été celles de certaines périodes de l'histoire chinoise récente, le grand bond en avant de la fin des années 50 et la révolution culturelle, qui, faut le savoir, se sont traduits quand même par des millions de victimes, en particulier le grand bond en avant qu'a créé, sous prétexte d'accélérer l'industrialisation, eh bien des famines très importantes. Donc il y a cette arrière-toile de fond, mais c'est une sorte de roman chinois à l'ancienne, de bouffonnerie, mais avec une saveur et puis une histoire succulente, puisque deux aspects dans cette histoire, il y a une troupe de cirque, mais qui a comme caractéristique eh bien, de regrouper des importants, des personnes handicapées, mais qui sont capables de faire des choses extraordinaires. Puis un autre aspect de cette sorte de bouffonnerie, eh bien, c'est un bureaucrate chinois, là, dont on ne sait trop quelle région de Chine, qui dessine, dans l'effondrement de l'Union soviétique des années 90, de se dire, bah, finalement, là, il y a une occasion, on va faire un coup d'enfer, on va racheter à l'État russe la dépouille de Lénine, du mausolée, on va la ramener dans notre fin fond de province et on va en faire une attraction touristique qui va dynamiser toute la région, etc. Bref, on s'amuse bien à la lecture, ce qui fait plaisir par les temps qui courent. Donc je rappelle le titre, « Bon baiser de Lénine » de Yan Liangke chez le très bon éditeur Piquet Poche. Et puis, je ne vais pas développer car j'y reviendrai, mais il faut lire et relire Louis Guillou. Hein. Oh, Louis Guillou, c'est un gigantesque écrivain du XXe siècle, un peu oublié aujourd'hui. Alors bien sûr, on connaît le sang noir, mais qui a écrit d'autres chroniques, Le pain des rêves en particulier, et un énorme pavé, c'est vrai, bon, il pèse, hein, Le jeu de patience. Alors, Louis Guillou, avec ce jeu de patience, c'est celui qui a simplement été battu au Goncourt en 1959. Sur le fil, il a été battu par Weekend Zwitkot de Robert Merle. Donc, on est dans la qualité. Alors, c'est une chronique, une gigantesque chronique. Alors, chacun connaît que Louis Guillou, eh bien, c'est le pays de Saint-Brieuc. Mais justement, Hein, d'abord, il y a une atténuation des lieux et finalement, ce Saint-Brieuc disparaît complètement. Ça pourrait être n'importe quelle région du pays, voire du monde. Et puis, c'est une chronique, eh bien, d'une multitude d'individus dans trois périodes et très intéressante parce que là, on palpe la question de l'histoire. Mmh. Hein, trois périodes, la veille de la Première Guerre mondiale avec ses espoirs, la Belle Époque, etc. La montée des fascismes en Europe dans les années 30. Et puis un troisième temps qui est l'après-guerre avec tout un tas d'événements et voir ce que les individus sont devenus. Ce n'est pas un hasard si Louis Guillou est un très proche d'Albert Camus. Il y a un humanisme et une précision des destins humains, mais vu avec une empathie extraordinaire, eh ben qui fait bon là aussi de lire et de relire aujourd'hui. Donc, je vous reparlerai sans doute de Louis Guillou dans les semaines ou les temps qui viennent.
Oui,
en l'occurrence, je viens de relire Le jeu de patience de Louis Guillou et qu'on trouve encore chez Gallimard.
Tu auras le temps, je pense que tu auras le temps avant la reprise, Dominique, puisqu'on a encore donc deux émissions à suivre avant les vacances, avant de reprendre le 31 août. Hein. Mais il va falloir que tu lises pour nos deux émissions, mais c'est pas.
Non, il n'y a pas de problème. Bon, mais comme je ne parle que des livres bien,
Et nous, ça nous fait plaisir. On marque une pause musicale et on revient au théâtre. Donc, le temps de caler Valérie Barrier, et puis après, on revient, et au Lucernaire, et au théâtre de l'Épée de Bois. Je pense que ça ne saurait tarder.
Écrire sa vie sans faux semblant, saisir la lumière de l'instant, quelle que soit la forme et le ton, chercher dans la répétition, jour après jour avec courage, se remettre encore sur l'ouvrage et accueillir le don céleste, la liberté du mot, du geste, courber l'échine. Sans se soumettre, accepter ce qui ne peut pas l'être, tout en gardant l'âme et le front animés d'une seule ambition, celle de faire briller son étoile, chevaucher son temps sans escale, étendre au ciel ses deux mains nues et dire oui à ce qui est reçu. Écrire, écrire,
trouver la forme.
Écrire, écrire,
celle qui fait l'homme.
Écrire, 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 écrire.
Trouver le lien.
Écrire, écrire,
l'unique, le sien.
Écrire, écrire, ouvrir son cœur sans autre forme, nourrir la foi qui nous transforme, mille fois douter, perdre le sens. Et traverser l'heure de l'errance, vivre l'instant comme il se donne, qu'il soit connu, qu'on s'en étonne, et dire sa vérité profonde, que cela plaise, que cela gronde, chérir ce temps qui nous célèbre, le bercer de toutes nos fièvres, penser toujours plus haut, plus loin, même si le vivre est incertain. Écrire le feu pour le comprendre, quelle que soit la forme des cendres, rugir aux mille feux du dragon, naître à soi-même dans le pardon. Ouvrir son cœur sans autre transforme. Pensez toujours plus haut, plus loin. Même si le vivre est incertain, ouvrir son cœur sans autre forme, nourrir la foi qui nous transforme. Pensez toujours plus haut, plus loin. Même si le vivre est incertain.
Voilà, c'était Valérie Barrier. On a dit un mot tout à l'heure des classes sociales, Mathias et Anne-Sophie, c'était... Bon, enfin, entre comte et marquis ou comtesse et marquise, c'est pas si énorme que ça, quand même, comme différence. Ils sont tous les deux nobles, je veux dire.
Oui, mais elle est...
Elle est au-dessus.
Elle est au-dessus. Donc, c'est elle qui descend.
Alors moi...
Donc en acceptant, ça veut dire qu'elle accepte
oui,
de...
Oui.
Mais ça, en même temps...
C'est anecdotique.
On s'en fout
ouais.
un petit peu dans notre, notre interprétation.
Dans le contexte dans lequel vous l'avez mis, vous, effectivement, qui sont plus une société boboïsée d'aujourd'hui, etc., qui est assez drôle, c'est ce qui permet d'ailleurs de faire tout de suite la relation. C'est qu'effectivement, le mariage, on a beau dire et on se marie plus et machin, et ça, il y a un moment où effectivement, tout d'un coup, là, toutes les nanas. Hein, ah mais attends, là j'arrive à 30 ans quand même, faudrait peut-être que... Ben oui, je sais pas, enfin tu fais ce que tu veux. Mais... Donc il y en a qui franchissent le pas, d'autres pas. Mais ça, effectivement, ça se pose. En tous les cas, vous êtes au Lucernaire avec cette porte ouverte ou fermée. Il vaut mieux qu'elle soit ouverte pour nous, d'ailleurs, on rentre. Vous avez détourné dans l'affiche un tableau de...
Fragonard.
Voilà. Mais c'est bien fait. Je dis rien, il y a une histoire de... Le décor est à mourir de rire, il est genre Technicolor, j'allais dire... ouais, Technicolor. Film Technicolor des années 50, etc., avec un côté très moderne. Une collection de... Ah, si je le dis, de bonnets absolument phénoménal. C'est drôle parce que... Bon, vous verrez en allant voir la pièce par rapport à lui. C'est plein de petits trucs extrêmement drôles. Par contre, il n'y a pas trop d'endroit où se poser, enfin, vaguement. D'ailleurs, lui, il n'a pas tellement le droit de se poser.
Non.
Enfin, allez voir la pièce.
Il n'y a pas trop d'ombre. Non, c'est un peu... Voilà, c'est fait pour elle.
Voilà, oui, c'est clair. En fait, on est... Oh, bah, de toute façon, on est chez elle. Hein. Mais elle est plutôt... Ce que je veux dire, c'est qu'elle est plutôt dans un décor de chambre d'étudiant que de... Que de marque... Enfin, que de... Même pour une bobo, je veux dire. Bah, elle fait pas très... C'est pas très...
Ça fonctionne. Mais on a imaginé plutôt un loft
drôle,
bobo
hein.
Avec le bois recyclé et la verrière.
Oui. Bon,
voilà,
mais il y a une vraie verrière
en plus.
Non, mais c'est très marrant, c'est très bien foutu. Ça permet de bouger dans tous les sens. C'est jusqu'au 19 août, Mazin.
Ouais.
On a quand même le temps de venir, mais faut,
oui,
c'est
oui.
pas pour ça qu'il ne faut pas venir. À 21h et le dimanche à 17h.
Dimanche à partir du mois de juillet.
Il y a une suite déjà d'envisager.
Une suite pour ce spectacle
bah, oui. C'est en train de se décider, je suppose.
Oui. On s'occupe d'un festival de théâtre à Taulignan,
oui.
dans la Drôme, depuis
4 ans. Ça va être la 4e année.
Je crois que c'est la 3e, c'est la 4e.
Ça va être la 4e.
Là, c'est la
4e. Vous allez y jouer le musée, là ?
Non.
Vous l'avez déjà fait, non ?
On l'a fait 2 fois l'été dernier.
D'accord.
En fait, on crée les spectacles.
Vous les créez là-bas ?
L'été.
Au festival.
Et on
festival.
Les reprend. Enfin.
Oui,
c'est pas un systématisme,
voilà.
mais jusqu'à maintenant, on fonctionne
D'accord.
comme ça. On les reprend à Paris et ensuite, on essaye de le tourner un maximum.
Et il reviendra là-bas sûrement l'année prochaine.
Ouais, puis je pense qu'il reviendra aussi à la rentrée ou on va un peu plus tard, en tout cas la saison prochaine, où que ce soit, parce que je pense
oui.
qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mara Benhad, je voulais vous demander, parce que vous êtes jeune comédien en France, ça fait 2 ans que vous êtes ici.
Non, ça fait plus.
2014, on m'a dit.
Ça fait 2 ans officiellement.
Voilà, bon, okay. bon, enfin,
non,
j'étais
dans...
Vous avez fait vos études théâtrales à Tunis. Il y a une
oui,
académie théâtrale
oui, j'ai fait
importante à Tunis.
L'ISAD, l'école d'art dramatique de Tunis. Et voilà, après, je suis venu en France pour suivre mes études universitaires. J'ai fait l'école d'art d'Amiens. Après,
D'accord.
Je fais le Lyon 2, l'université Lyon 2 à Lyon, je finis ma licence.
Et c'est là que vous avez rencontré Jérôme Anquis pour jouer Caliban dans la tempête.
C'est ça,
c'est une sacrée aventure quand même. Hein.
Voilà, j'ai joué avec
voilà.
Olivier, après Olivier.
Je sais tout, moi. Voilà.
Parce que moi, je jouais dedans aussi.
Mais voilà, voilà. Alors en plus, je veux dire, ah bien, voilà, vous êtes de la même région. On a 2-3 minutes pour conclure, donc l'établi, Olivier, l'important, c'est de dire que c'est jeudi, vendredi, samedi à 20h30. Le samedi et le dimanche, il y a une matinée à 16h.
Oui.
Alors, le samedi, c'est assez dur quand même. Hein.
Oui, c'est...
Parce que vous êtes tout, hein, comédien, manus, tout, enfin, on a compris, quoi, c'est l'usine. Hein.
C'est l'usine.
Franchement, c'est l'usine. Hein.
C'est l'usine, mais on fait des bonnes soirées aussi, on s'amuse c'est bien.
C'est jusqu'au 1er juillet.
Voilà.
Y a une suite déjà.
On part au Festival d'Avignon dans la foulée.
Ben voilà.
Et puis, on a des dates, on reprend à partir de la saison prochaine.
Vous serez où, Festival d'Avignon? Je dois
à présence,
avoir là,
Pasteur.
Mais... ouais, formidable.
Dans la grande salle.
Formidable. À quelle heure?
12h50.
C'est parfait. Je le redirai sur nos dernières émissions. Après, bon, on verra. Et plus c'est affinité. Mais enfin, là, c'est un très, très gros investissement. Ça serait bien que ça soit vendu dans un certain nombre de grands théâtres.
Ah, oui,
il faut de l'espace,
voilà,
quand même. Hein.
Dans 400 théâtres, hein, ça serait bien.
Ouais. Ouais,
il faut de l'espace.
Oui,
oui, mais il faut de l'espace. Oui, il faut de l'espace un petit peu.
Il faut un peu d'espace.
Voilà,
quand même,
oui,
hein.
Oui, oui.
Un peu d'espace. Il faut des gros camions pour les plaques de. Enfin bon. C'est
on a un décor de 4 tonnes.
Voilà.
Voilà, ça n'effraie personne. Ça...
surtout pas vous, surtout que vous faites tout. Donc
voilà.
C'est un spectacle absolument remarquable. Ça s'appelle L'Établi. Je rappelle le roman de Robert Linard. Vous êtes donc au théâtre de l'Épée de Bois. Vraiment, allez-y, je vous en prie. Et c'est pareil, vous avez vu L'Établi, bah allez vous marrer avec le Musset. Mais pas que, mais parce que. Et j'ai adoré effectivement ces deux moments qui sont, j'allais dire, et l'homme et la femme qui disent des choses un peu plus... Voilà, un peu plus...
C'est mystérieux.
Hein, voilà,
on non, mais qui nous concerne, qui nous concerne un peu plus sur la société, etc. Vous avez compris. Mais c'est un vrai bonheur en tous les cas. C'est Merci. Un vrai bonheur. Hein. Tout le malheur qu'on vous souhaite, c'est de continuer comme ça. J'avais juste une dernière question. Vous n'avez pas envie de monter un texte contemporain pour
bien sûr.
Mathias,
oui,
qui écrit.
C'est le but. Hein.
Ouais.
Pas faire des classiques revisités toute notre vie. Hein.
Donc il y a un projet qui va voir le jour. Donc on va en reparler prochainement.
Exactement.
Ben, j'en suis ravi.
Prochain spectacle, c'est ça.
Voilà, notre émission est terminée. Au revoir à tous et à toutes. Merci Julien, on se retrouve la semaine prochaine.